Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
Bonjour auditrices et auditeurs de Radio Galère, ce mercredi 17 avril 2024. Le Mistral souffle du Nord-Ouest, évidemment. Mais pour ce livre, pour cette émission de Livres et Amis, nous avons choisi un livre du Sud et du Sud-Est même, en fait, d'Égypte. Donc aujourd'hui, dans Livres et Amis, avec Louise à la technique, et ben nous sommes au micro, Dominique avec Youssef. Et nous allons vous parler d'un livre de Mohamed El Bissati qui s'appelle « La fin ». C'est un roman, qui nous montre des conditions de vie difficiles. Donc désolée de vous plonger dans un univers où les gens ont faim, où les personnages de ce livre ont faim. Et oui, quasi continuellement, ils ont faim parce qu'ils ont bien peu pour satisfaire leur faim. Avec ce roman, Mohamed El Bissati était entré en lice pour le prix international du roman arabe. C'était lors de sa parution en 2009. La traduction de Edwige, je ne me souviens plus comment s'appelle Edwige, je vous retrouverai ça tout à l'heure. Enfin bref, une traduction parue en 2011 aux éditions Actes Sud. Oui, il y a Youssef qui est en train de me chercher le nom d'Edwige, voilà. Elle s'appelle Edwige Lambert. Donc, un roman de Mohamed El Bissati paru chez Actes Sud dans une traduction d'Edwige Lambert en 2011. En fait, Odile avait déjà fait une lecture de ce roman à cette époque-là et j'ai décidé de le reprendre parce que c'est un roman, certes, mais c'est aussi un conte. Et c'est aussi un genre de triptyque de trois nouvelles puisque... Il s'agit de présenter trois points de vue de trois personnages dans une famille. Le père ou le mari, enfin le mari ou le père, pardon, la femme ou la mère et l'aîné des garçons. Donc en fait, il s'agit de moments de la vie d'une famille avec leurs aléas, avec justement leurs difficultés de vivre. Et puis aussi un petit peu le monde tout autour d'eux, le monde d'une ville égyptienne qui n'est jamais nommée. Puisque en fait, c'est pour ça que je disais, il s'agit d'un roman et d'un conte à la fois. On est dans le réalisme de la vie des personnages, de la difficulté de vie des personnages. Mais on est en même temps dans un monde un petit peu fantasmé, avec en effet les puissants et les pauvres. Avec ceux qui possèdent et qui mangent et ceux qui ne possèdent pas et qui ne mangent pas, mais un réalisme qui est donc un peu éthéré puisque on n'a pas vraiment d'effets de réel concernant la vie politique, concernant la vie, disons, factuelle autour des personnages. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de téléphone, donc on est tranquille de ce côté-là. Et il n'y a pas d'effet de réel qui nous situe dans une période contemporaine complètement proche ou un petit peu éloignée. On est dans un genre de vie réaliste, en effet, mais pas complètement dans le réalisme. Mohamed El Bissati, il est spécialiste de l'écriture de nouvelles. Il a fait beaucoup de recueils de nouvelles. Et c'est vrai que ces nouvelles se rapprochent toujours un petit peu des contes orientaux qui nous touchent à la fois par leur poésie et leur humour, en même temps que par ce fameux réalisme un petit peu détaché. Et l'humour ici, bah oui, c'est un humour noir, une ironie sociale en particulier, de cette société où deux groupes se différencient, comme je disais, ceux qui possèdent et qui mangent à leur faim et ceux qui ont faim de façon quasi perpétuelle. On va donc donner la parole à nos trois personnages avec le triptyque de ces trois points de vue sur leur situation. Et avant d'entrer dans le vif du sujet de leur vie quotidienne, on va décrire leur maison. La façade de la maison est rouge, des briques de terre séchées. Le bas est gonflé d'humidité par moments et donc des morceaux sont tombés. On a comblé les larges fissures avec du ciment. La porte est de bois épais. Au-dessus d'elle, sur le mur, on a écrit en blanc au pinceau « Entrez ici, en paix et en sécurité ». La couleur de cette écriture est encore éclatante et les mots, en dépit des années, sont intacts. Le plus jeune des enfants en prend soin. Il aime le tracé, quoiqu'il ne sache ni lire ni écrire. Il voit ses mots, il voit ses écritures depuis qu'il a ouvert les yeux sur le monde. Il les voit chaque fois qu'il va entrer dans la maison. Il grimpe sur la porte de temps en temps pour les dépoussiérer et passer un chiffon humide sur l'inscription. À l'intérieur, les murs sont d'argile, la pièce unique est couverte de poutrelles, tandis qu'une partie de la cour demeure à découvert pour permettre à la lumière d'entrer. Et l'autre moitié de la cour est abritée sous un treillis composite de branches, de palmes, de morceaux de fer blanc, de guenilles qui pendent, et dont la forme ne se distingue guère des serpents qui louvoient à proximité de temps en temps. La mastaba, devant la porte, occupe un vaste renfoncement qui évoque une grotte. La mastaba, vous savez, cette espèce de chalet qui permet justement de dormir à l'extérieur quand il fait très chaud. Et cette mastaba, elle est assez spacieuse pour que la famille entière puisse y dormir lors des fortes chaleurs. Voilà, le décor est planté. Eh bien, on va passer à la vie des personnages et on va passer en particulier à l'expression du mari, du père. Et c'est Youssef qui prend la parole.
Comme à son habitude, quand le pain vient à manquer à la maison, Sakina se lève à l'aube et s'assied sur la mastaba. Son voile roulé dans son giron, elle s'est lavé le visage, a revêtu la seule robe qu'elle possède. Des années qu'elle la porte, la trame s'est éclaircie, les roses dessus se sont fanées. Cependant, elle ne dort pas avec, se contentant la nuit d'une chemise rapiécée.
Oui, j'ai oublié de vous présenter donc les personnages. La femme, la mère, c'est Sakira. On vient de parler Sakina. D'elle parce que...
Sakina.
Sakina, c'est la mère de famille, en effet. On va voir que sa préoccupation essentielle, c'est de faire vivre la famille. Et puis l'homme, le père, c'est Zaghloul. Et tout à l'heure, on parlera du fils qui s'appelle Zahir. Allons-y, on continue.
Son mari et ses deux fils la rejoignent. Encore ensommeillé. Les fils ont 9 et 12 ans. Raghab, le cadet, plonge la tête contre les cuisses de sa mère et se rendort. L'aîné, Zahir, s'accroupit près du chambranle. À l'autre bout de la mastaba, l'homme se cure les dents avec un brin de paille. Ils se sont endormis tous les quatre le ventre vide, se réveillant par intermittence. Elle a senti dans son sommeil que les enfants s'asseyaient, regardaient ça et là autour d'eux, puis se rendormaient. Mais que faire? Il y a 2 jours, Zaghloul a dépensé ce que lui restait. Il s'est acheté une cigarette qu'il ne fume pas.
Ouais, en fait, c'est assez drôle cette remarque parce que Zaghloul, il fume de temps en temps, c'est vraiment le plaisir. Et donc, bah oui, de temps en temps, il préfère acheter une cigarette qu'acheter du pain.
Elle, comme d'habitude, attendait que le jour se lève pour passer chez ses voisines, leur emprunter du pain. Parfois, elle en obtient, parfois non. Elle rend toujours ce qu'elle a emprunté avec retard. Peut-être, mais elle l'auront. N'attend pas qu'elle le lui réclame. Elle tombe quelquefois sur l'une d'elles. La femme ne demande rien, mais son visage parle pour elle. Sakina dit alors, « Ça va, dans 2 jours, je fais cuire du pain. » L'autre reste impassible. C'est comme si Sakina n'avait rien dit. Rien n'annonce, cette fois, le jour de la cuisson. Zarloul s'enfonce dans l'oisivité. Il travaille 2 jours et chôme 10.
Eh oui, travailler, chômer, mais chômer plus que travailler, c'est un vrai problème.
Il ne semble fatigué qu'une fois rentré à la maison. Oh mon dos, oh mes hanches, mais qu'importe, Dieu soit loué. Et tandis qu'elle lui frictionne le dos, elle lui demande. Au fait, et les cérémonies de condoléances, et le chargement des chaises. Oui, masse bien à cet endroit. C'est là, au milieu du dos, il gémit. Vas-y doucement. Sa main va et tient le long de son épine dorsale. Elle répète sa question. Ouais, il y a eu des condoléances? On a chargé des chaises? Et alors? On t'a payé? Dieu m'en garde. Le mérite, femme. Le mérite. Le mérite? Tu veux dire que tu n'as rien gagné? Quoi? Rien? Le mérite que je te dis. Et pour les enfants? Du mérite aussi? Peut-être? Lorsqu'il aura eu son content d'oisivité et de flânerie, il se remettra au travail. Elle sait tout faire, garçon de café, étameur, portefeuille, maçon, ferblantier. Elle ne cherche pas longtemps. Accepte ce que se présente. Travaille comme 3. Au café, elle assure 2 services successifs. Nettoie les lieux au petit matin, après avoir servi toute la soirée. Dort sur place. Lorsqu'il travaille, Sakina ne le voit pas des jours durant. Il envoie un commis lui porter de l'argent et prendre des vêtements propres. À écouter le gamin, on croirait que Zarloul a 5 ou 6 tenues de rechange. Elle ne n'a qu'une, à vrai dire. Et elle ne sait plus si elle l'a lavée. Il n'y a pas eu un bout de savon dans la maison depuis la dernière fois qu'il a travaillé. Peut-être s'est-elle contentée de rincer ses vêtements pour les débarrasser de la poussière et de la boue. Elle jubile, tandis que sa main se renferme sur l'argent. Il y a si longtemps qu'il n'y en a pas eu dans sa poche. Si longtemps même qu'elle n'en a pas touché du doigt. Elle tourne le dos au commis et s'apprêtant à compter la somme, s'avise qu'il reste planté là. Tu veux quelque chose? Les habits. Quels habits? Ah, la tenue de rechange. Elle allait oublier. Elle, tergiverse, ne peut s'empêcher de compter tout en entrant dans la maison pour y chercher les vêtements. Faire du pain aujourd'hui même. Elle restera 2 piastres, un peu de sucre et de thé, une tranche de fromage, une demi-tranche suffira, une assiette de mélasse, peut-être un peu de riz et de lentilles ou juste du riz.
Oui, compter toujours, bien sûr. Alors, aujourd'hui, Sakina va aller faire du pain. Moudre de la farine ne prendra guère de temps. Elle fait un saut chez le marchand de blé, achète ce qu'il lui faut, va au moulin, moudre son grain, puis revient. Elle est de courte taille, trapue, corpulente, avec des seins volumineux qui pendent presque sur son estomac. Elle se hâte vers le four, celui d'Oum Saïd, et une fois rendue, lance à la cantonade qu'elle va mettre du pain à cuire. Si quelqu'un veut enfourner du poisson ou toute autre chose, il lui faudra attendre. Mais elle n'entend aucune objection, ça va. Alors, elle va dire ce qu'elle a à dire, faire ce qu'elle a à faire. Elle prend le chemin du retour, envahie de fierté. Elle retrousse sa robe sur le côté et en dégage une jambe dodue. Elle coince avec son coude le pan du vêtement contre sa taille. Elle avance en se dandinant fièrement, maintenant qu'elle a son pain, le long du canal. La moitié du pain qu'elle a fait cuire sera engloutie dans ses dettes. Elle compte ensuite ce qu'il lui reste de galettes. Ah, Dieu soit loué, j'ai quand même de quoi voir venir. Il suffit qu'elle puisse solder les dettes anciennes. Et ensuite, elle va consommer. Et ensuite, elle pourra toujours emprunter de nouveau si les temps redeviennent difficiles. Elle met de côté le nombre de galettes qu'elle doit à chacune, puis les leur donne à peine revenue du four. Elle y va elle-même. Elle rend exactement ce qu'elle a reçu. Ce serait une honte d'envoyer les gamins. Que diraient les femmes ? Donc elle enveloppe chaque pain dans son voile avant de se mettre en chemin. Ce n'est pas qu'elle veuille le dissimuler au regard. Qu'en a-t-elle à faire des regards ? C'est juste pour le protéger de la poussière et des mouches et du mauvais œil aussi. Et puis les femmes pourraient s'offusquer de voir leurs galettes exposées à l'air. Le pain qui reste, elle le conserve dans un cajot de palme qu'elle suspend au plafond, près de la cour, près de l'entrée, mais loin des souris, loin du regard du mari et des enfants. Quand bien même l'un des gamins serait rassasié, s'il y a du pain à portée de main, il mangerait tout ce qu'il pourrait. Quant au mari, évidemment, de la même façon, il n'en ferait qu'une bouchée. Alors, le pain est bien mis de côté dans son petit panier suspendu. Cette fois, Zaghloul a travaillé. Oui, il aura travaillé une semaine. Ça lui a permis de faire juste une fournée. Et sur cette fournée, bon, ben, ça y est, il ne reste plus que 3 galettes pour les garçons. Elle va devoir emprunter à nouveau et de nouveau passer de maison à maison. S'il avait travaillé une semaine de plus, ou même 4 jours de plus, elle aurait pu faire une deuxième fournée. Mais non. Enfin, bon, c'est comme ça. Ça repart. Ça recommence.
La nuit est calme. La lune s'est levée. Il n'y a pas un bruit. Tout le monde dort. Qui, à part eux, est encore éveillé à cette heure? Les crampes de la faim s'empêchent de dormir. Encore une heure et elles s'apaiseront. Elles ne durent pas. Un pincement, un autre, et ça s'arrête. Sa voix lui parvient étouffée. C'est un fait, Sakina. Il soupire et se tait. Elle se tourne vers lui, perplexe. L'éducation est une bonne chose. Sa surprise s'accroît.
L'éducation ?
L'instruction, femme. Les écoles.
Les écoles ? Ah !
Les écoles, les universités. Ce soir, les étudiants du village qui vont à l'université étaient en vacances et ils passaient la soirée au café de l'autre rive, le grand café. Celui avec une palissade de bois autour. J'étais assis sur la mastaba, près du mur. Je les entendais parler. Ah, quelle conversation! Il y avait des mots que je comprenais, d'autres pas. Je leur aurais bien demandé. Je vais t'expliquer, Sakina, mais tais-toi. Ils disaient qu'on n'est pas supposé travailler tous les jours comme des bœufs. Qu'il faut avoir du temps pour penser. Bon, mais penser à quoi? Ils ne l'ont pas dit. Je voulais le leur demander. Je les ai regardés, mais je n'ai pas osé.
Et naturellement, ça t'a plu, ces mots-là. Et tu les as compris, ces mots-là.
Ils ont dit beaucoup de choses, comme « Pourquoi est-ce qu'on vit ?» Et moi, je pensais « On vit parce qu'on vit. » Et c'est tout. Ils ont dit « On se marie, on fait des enfants. » Et alors ? Moi, je me disais « Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ?» Oui, beaucoup de choses. Après, ils sont partis. Je suis parti aussi et dans ma cervelle, ça bouillonnait. Ça bouillonnait. Et moi, je dis, il y a des gens qui sont contents, d'autres qui ne sont pas contents. Voilà, drôle de monde.
Oui, ça c'est le fatalisme de Zaghloul. Et il aime écouter les conversations. Ça surprend toujours Sakina. Il va écouter, en effet, dans les cafés. Quand il ne travaille pas, il va quand même dans les cafés écouter les gens, écouter la conversation. Et la conversation des étudiants, manifestement, ça l'intéresse vraiment parce qu'ils ont une réflexion que les autres n'ont pas.
Jour maudit que celui où et la rencontrait les étudiants. Il sort tous les jours à l'heure du couchant pour ne revenir qu'aux premières lueurs de l'aube. Il les cherche dans tout le village jusqu'à ce qu'ils tombent sur eux. Alors il s'assied non loin d'eux, à portée de voix. Il ne veut pas attirer l'attention, les ennuis, par sa l'attention et les ennuis par sa présence. Plusieurs fois, il s'est surpris à rire lorsqu'eux-mêmes riaient, ou bien à approuver d'un hochement de tête les propos qu'il comprenait et appréciait. Il arrive qu'il ne les trouve pas. Il continue à tournoyer jusqu'à ce qu'il perde espoir. Il se contente alors du premier groupe qu'il rencontre en chemin, s'assied à proximité et tend l'oreille. Mais ce que disent ceux-là le laisse sur sa faim. Ce sont toujours les mêmes racontars. Que sont ceux-là à côté de ses amis les étudiants? Certes, il ne comprend pas grand-chose à tout ce qu'il raconte, mais ce qu'il en saisit l'absorbe pendant un bon moment. Et quant à ce qu'il ne saisit pas, il y trouve malgré tout un attrait, prenant plaisir à la perplexité qu'il éprouve tandis qu'il tourne et retourne dans son esprit leurs mystérieux propos. Et que dire de leur enthousiasme lorsqu'ils discutent, haussent le ton et que leur voix s'entremêle? Elle hoche la tête en les écoutant. Il jubile. Il aime ces mots, mes amis. Se les répète en son fort intérieur. Quand elle ne les trouve pas, elle les cherche ici et là. Elle les aperçoit parfois cheminant sur la route qui coupe à travers champs. Leur rire sonore lui parvient. Il a découvert où ils habitent. Ils sont tous rassemblés chez l'un d'eux. Il pourrait distinguer leur voix parmi des centaines d'autres.
Donc, Zarloul s'intéresse aux propos des étudiants.
Cette fois-ci, la tête sur ses genoux repliés, gagné par la torpeur, il est mécontent. Ils ne l'ont pas étonné. Leurs histoires, n'importe qui aurait pu les raconter. Ils voulaient entendre des choses qu'ils ignoraient. La soirée va s'achever. Bientôt, le café fermera et ils rentreront. Ils n'ont rien dit qui aurait pu le déconcentrer, comme les autres fois. Des choses sur lesquelles méditer quand ils seraient loin d'eux. La fois d'avant, ils avaient, comme ils disent, parlé politique. Toute la soirée, ils n'avaient parlé de rien d'autre. La situation de pays. Ce qu'il endure, ce qu'il a enduré pendant des siècles, il lui semblait qu'il parlait d'un pays étranger. Un pays dont il n'avait rien à faire. Pourquoi notre nation, se demandait-il, a-t-elle connu, contrairement à bien d'autres, tant d'années de colonisation et des pires, les Turcs, les Français, les Anglais, sans compter ce qui nous attend encore. Cela ne peut venir que de nous, le peuple de ce pays. Nous nous accommodons de toute situation, de tout pouvoir. Où sont les grandes révolutions qui ont éclaté ailleurs, comme nous l'avons vu, celles qui ont chassé l'impérialisme, mis à bas les régimes corrompus? Regardez où nous en sommes. Qu'on descende dans la rue et le pouvoir montre les dents, on voit ses blindés. La manifestation se disloque. Elle est brisée. La révolte d'Orabi en 1919, c'est tout ce que nous avons. Ce que nous avons dans notre longue histoire, dans notre civilisation, comme ils disent. Puis voilà qu'advient 1952, la révolution des officiers. Où donc étaient les gens à l'époque? Dans leur foyer, Dieu merci. Ils se sont réveillés le lendemain pour s'entendre dire « C'en est fini de la corruption » et son retour. Nous sommes venus afin de veiller sur vous, que Dieu soit avec vous. Elle est aux cieux témoin de toutes choses. C'est témoin un seul pays qui a été gouverné par des militaires pendant près de 16 ans. C'est bien ce que je disais. C'est notre honte à nous, le peuple de ce pays. Ils sont portés et l'attendaient que leur colère s'apaise. Un long silence a suivi pendant lequel on entendit d'autres bruits que celui des clients sirotant leurs boissons. Puis ils se sont mis à parler de leur chanteur préféré, Om Kalsoum, Abdel Wahab, Fayrouz, ceux qu'il préférait lui aussi. Ce n'est qu'il n'avait jamais écouté une seule chanson jusqu'au bout.
Et oui, c'est vrai, Sarloul, il n'a pas les moyens d'avoir de radio, il n'a pas les moyens d'écouter la radio, il n'a pas les moyens d'écouter des chansons, mais il aime écouter les étudiants lorsqu'ils parlent politique, on l'a bien entendu, et aussi lorsqu'ils parlent des chanteurs et des chanteuses qu'on entend effectivement à la radio. Alors oui, là, vous vous êtes rendu compte, même si on n'est pas tout à fait dans le réalisme, on a quand même les détails politiques, les détails de la vie politique de l'Égypte, avec en particulier le régime des officiers. Mais c'est assez suggéré, c'est encore un peu loin, c'est encore avec intermédiaire, je dirais. La dernière fois que Sarloul avait écouté les étudiants, il ne travaillait pas. Et la dernière fois qu'il avait travaillé, c'était 2 mois d'affilée. Pendant ce temps-là, il y avait eu de tout à la maison. Il y avait même des femmes qui étaient venues pour emprunter du sucre et du café. « Oh, juste assez pour la bouilloire qui est sur le feu. Il y a un invité. » Et celui-là, ce sucre-là, ce thé-là, on ne l'a jamais rendu. Sakina n'a jamais revu ce qui est emprunté comme ça en passant. Pas plus qu'elle n'a revu le café, pas plus qu'elle n'a revu la pincée de sel, les 2 gousses d'ail ou l'oignon. Bien des choses ont été données qui ne sont pas revenues. L'huile non plus. Enfin, l'huile, c'est selon, bon, ça dépend. Si elles viennent avec un verre ou un cruchon, c'est un emprunt, donc bien sûr, c'est rendu. Mais si elles viennent juste avec la gamelle dans laquelle il faut 3 gouttes d'huile pour faire cuire ce qu'il y a, ce qu'on va mettre sur le feu, ben non, ces 3 gouttes-là, elles ne seront pas rendues. Mais enfin donc, pendant 2 mois, Sakina a eu tout ce dont elle avait besoin, et même suffisamment pour prêter et même donner sans que ce soit rendu. Bien sûr, elle donne tout ce que les autres demandent, emprunt ou pas. Un peu comme Sarloul qui travaille bien souvent sans être payé puisqu'il rend des services. Mais bon, quand elle lui rend, ça va. Et quand elle ne rend pas, bon bah tant pis, c'est comme ça. Elle ne dira jamais rien, Sakina. Et elle ne veut pas qu'on la regarde de travers. Alors oui, pendant 2 mois, il y a eu à la maison tout ce qu'on pouvait désirer. Ils ont même eu une boîte de friandises au sésame que Sarloul avait rapporté par son travail. Et même si ça, on ne le voit que rarement, ils ont tout dévoré d'un coup. Alors, ces jours-là, c'est ces jours de richesse aussi. Elle a acheté des galabeyas, vous savez, ces vêtements de rechange dont ils ont besoin, effectivement, après, pour retourner au travail. Et qu'est-ce qu'elle a acheté d'autre? Enfin bon, tout ce qu'elle n'avait pratiquement pas acheté depuis son mariage. Elle a acheté ou elle a à nouveau rendu ce qu'elle devait. C'est comme ça, 2 mois. Et puis ces 2 mois ont passé. Un jour, il est rentré pieds nus. Il n'avait même plus ses mules aux pieds. Elle s'en est aperçue, l'a interrogé et il s'est penché et il a dit « Ah ben oui, c'est vrai, je n'ai plus mes mules. Ah mais j'ai tellement peu l'habitude d'emporter. » Il a essayé de se souvenir. Non, il n'a pas retrouvé. Et donc, il est resté sans mules.
Grâce soit rendue au Hag Abdelrahim. Elle n'a jamais entendu parler d'un homme meilleur. Elle aurait tant aimé le voir. Mais cela ne s'est jamais produit. C'est par hasard que Sarloul a travaillé pour lui. L'homme avait passé des années à l'étranger et, avant de revenir définitivement, avait rénové sa maison et construit derrière un mur qui empiétait sur une partie de la rive et l'annexait à la demeure. Nul n'y avait trouvé à redire. C'est ce qu'elle avait entendu raconter, mais pas de Sarloul lui-même. Ce dernier ne pépait mot quand elle l'interrogeait sur le Hag, sur sa maison ou sur ce qui se passait là-bas. Sarloul cherchait du travail après être resté longtemps chez lui, à l'exception des soirées qu'il passait toujours dehors. Le Hag Abdelrahim était revenu de l'étranger.
travaille pour moi ? Pour faire quoi ? Des choses et d'autres, mais au juste, m'aider à monter la mule et à descendre. Elle cherchait, a-t-il ajouté, quelqu'un de sa taille qui pourrait le soutenir. Les gens trop grands se fatiguaient quand il s'appuyait sur eux. Ses voisins ne pouvaient pas grand-chose pour lui et il ne trouvait personne quand il en avait besoin. Elle cherchait aussi quelqu'un qui pût l'accompagner lorsqu'il sortait. Ainsi fut-il conclu.
Et oui, en fait, Zarloul a trouvé un emploi auprès d'un homme riche, un homme riche qui est un peu malade, très corpulent, et donc il va rester auprès de lui, et cette fois, il sera payé de temps en temps, il rapportera des choses de la maison de cet homme riche de temps en temps.
Tôt le matin, Zarloul traînait la mule jusqu'au canal, la lavait et lui donnait du fourrage. Puis, il nettoyait le bas et l'installait. Après quoi, il s'asseyait dans la cour, non loin de la chambre du hag, et attendait. Le hag ne sortit pas tous les jours, mais il avait besoin de Zarloul quand il voulait quitter le lit ou se rendre aux toilettes. Zarloul les conduisait, puis il appelait la femme du hag pour qu'elle vienne le laver. Sa chambre se trouvait à l'autre bout de la cour, et Zarloul devait claquer dans ses mains plusieurs fois avant qu'il ne réponde. C'était elle qui lui apportait de quoi manger et aussi du thé. Elle lui tenait compagnie dans la cour jusqu'à ce qu'il eût fini. Zarloul travaillait chez le hag depuis 2 jours, quand ce dernier lui a suggéré de rester dormir pour qu'il pût le conduire aux toilettes si besoin était. Ainsi a-t-il été convenu, Zarloul s'est préparé une couche dans la maison du hag, dont les ronflements et les grognements ne l'empêchaient nullement de sommeiller. Dès la première nuit, l'homme l'a réveillé et le soutenant. Il l'a conduit précautionneusement jusqu'aux toilettes. Au bout d'une semaine, le hag a demandé « Alors, Zarloul, tu es content ?»« Dieu soit loué. »« Moi aussi, je suis content de toi. » Après un bref silence, il a repris. « Ça fait une semaine que tu n'as pas vu tes mioches. Prends ça. » Il a sorti de sa poche une poignée de piécettes et les lui a tendues sans les compter. « Achète-leur quelque chose et reviens au coucher du soleil. Il me faudra sortir. » Il a pointé le doigt vers le dehors. « Prends ce qui reste du déjeuner. » Je le lui ai dit. Il faisait allusion à la vieille. Zarloul l'a trouvée dans la cour, qu'il attendait avec les restes empaquetés.
Oui, dans la maison de cet homme, en fait, il y a la femme, mais la femme, on la voit pratiquement pas, et puis une servante que Mohamed El-Bessati appelle la vieille. Donc on aura à reparler de la vieille, peut-être.
Profites-en. Quand tu reviendras, tu m'en raconteras ce que tu as acheté pour les enfants. Elle s'est éloignée en riant. À son retour, ce fut une explosion de joie. Ils se rassemblèrent autour du paquet et à la vue des morceaux de viande, elle appela les enfants. « Ferme la porte. » Il y avait du riz, des gombos et des morceaux de baklava que Sakina mit de côté pour le dessert. Elle regarda Zarloul et il dit qu'il avait déjà mangé là-bas. Le petit demanda la bouche pleine. « Tu manges comme ça tous les jours ?»«
Eh oui, manger tous les jours. Ça, c'est la vraie fête. »
Lui songe à ce qui est arrivé la veille, à ce que le hag lui a dit. L'homme était sur son lit, couché sur le côté, et regardait Zarloul installé sur son propre matelas. Il l'a interrogé. « Les enfants allaient-ils à l'école ?»« L'école, hag ? Qu'est-ce que nous autres, on a à voir avec l'école ?» La lampe suspendue au mur diffusait une lumière chétive, des ombres vacillait ça et là. Le hag avait fermé les yeux. Il a dit qu'il avait 2 fils qui vivaient et travaillaient à Alexandrie. Il n'aimait ni le village, ni ses gens. Aussi ne les avait-il pas vus depuis son retour. Quand elle était partie à l'étranger, des années plus tôt, elle les avait laissés à des parents d'Alexandrie pour qu'ils puissent étudier là-bas. S'il les voyait pendant les vacances, elle avait le sentiment qu'ils s'éloignaient de lui. Leurs lettres d'hebdomadaires étaient devenues mensuelles et ils avaient fini par ne plus écrire. Lorsqu'il était tombé malade, quelques années plus tôt, il était apparu que cela ne les préoccupait guère. Il s'était dit que tous les enfants devenaient ainsi en grandissant. Ils avaient de nouveaux centres d'intérêt, espaçaient leurs relations avec leur père. C'était la vie.
En fait, c'est ça, c'est les plaisirs et les risques de la vie avec Elhag. Puisque cet homme est vieux, il est malade, il a des enfants éloignés, il a une femme qui ne s'occupe pas beaucoup de lui. Il est bien content d'avoir Zarloul avec lui. Mais le problème, c'est que la situation de Zarloul n'est absolument pas fiable, absolument pas stable. Donc, il s'entend bien avec cet homme et cet homme est gentil avec lui et lui donne au fur et à mesure un peu d'argent, lui fait donner aussi un peu des restes des repas. Et puis, malheureusement, un jour, il se passe ce qui constituait un peu le risque de cette vie, c'est-à-dire que le Hag tombe beaucoup plus malade et même, évidemment, il meurt. Donc, quand le Hag meurt, c'est la vieille dont on a parlé tout à l'heure. La vieille qui dit à Zarloul qui était parti faire des courses, « Ah, le maître est mort. » Et comme Zarloul se dirige vers sa chambre, la vieille lui dit, « Où tu vas ? Le voir ? Oh, mais le Dieu soit avec toi, mais viens plutôt par là. » Et elle le conduisit en direction de la porte, avec une petite tape dans le dos. « Adieu !» Voilà, l'employeur est mort et il ne se passe plus rien derrière. Donc, ça a duré quelques semaines. Et puis, à nouveau, la misère et la faim reprennent. Mais pour échapper à la misère et à la faim, on va écouter un peu de musique. Et puisqu'on est en Égypte, on va écouter Oum Kalsoum.
Thank you. فين والحب فين ظلموني دايما معاك انت فين والحب فين ظلموني دايما معاك كان لو حبيت يومي كان هواك خلاك ملاك انت فين والحب
Merci Oum Kalsoum. Alors Youssef est en train de me dire que j'aurais dû mettre une belle chanson égyptienne qui parle de la pauvreté. Bon, bah, c'est un peu tard, ça sera pour la prochaine fois. On essaiera de trouver ça et de la passer à une autre occasion. Donc, on a eu l'histoire jusqu'à présent du point de vue de Zahloul. Et on va passer maintenant au point de vue de Sakina. Sakina, c'est vrai qu'elle est avant tout la mère de famille. Et quand on revient à elle, on revient à elle toujours sur le mastaba le matin. Après avoir guetté les prémices de l'aube, le soleil s'est levé. Elle est là, le village sommeille encore. Il n'y a pas de bruit dans la ruelle, mais elle, elle attend. Et elle attend parce qu'en fait, ses crampes de faim l'ont réveillée, même si elles se sont un peu apaisées ensuite. Elles sont revenues et elles supportent difficilement le jeûne quand c'est le ramadan. En fait, elle va se coucher sans même avoir mangé. Et quand elle se réveille et elle commence le jeûne à nouveau sans même avoir pris le soubour, le repas du matin, avant le jour. Et puis, ce sont les enfants qui lui font souci, l'aîné surtout. Le cadet, bon, il suffit de le regarder pour savoir au premier coup d'œil s'il souffre. Et on essaye de trouver une solution. Chaque fois que la faim le tenaille, il se blottit contre sa mère. Avec l'aîné, maintenant, elle ne sait que penser. Depuis des mois, son visage change constamment. Il a tantôt les traits tirés, tantôt la mine épanouie. Lorsqu'il a faim, il ne vient plus près d'elle pour réclamer, comme auparavant. Et il paraît un peu perdu dans ses pensées. Elle doit l'appeler à nouveau, deux fois ou trois fois, pour qu'il lui prête attention. Ben oui, il grandit. Et quant à Zahloul, bah, on l'a vu, il vit dans un autre monde. Lui parler est souvent vain. Il reste assis à l'autre bout de la mastaba et il se cure les dents et il susote son brin de paille qu'il a trouvé dans la paillasse et qui est évidemment toujours renouvelable. Voilà, la misère, la faim continue. Mais dans le village, en dehors du hag dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi une grande maison. Une grande maison dans laquelle il y a d'autres personnes riches. Et ces autres personnes riches, eh bien, ce sont elles qui vont redonner espoir et redonner surtout argent et nourriture à Sakina. En fait, elle a cherché à entrer dans la maison, elle n'a pas vraiment réussi, mais Zahloul, lui, a vu qu'il venait régulièrement près de cette grande maison des camionnettes pour prendre des paquets et les emmener au loin. Donc, il a raconté cela à Sakina et il a décidé d'aller voir de plus près. Oui, je suis allée voir ce qu'il mettait dans les camionnettes. Eh bien, c'était des provisions et toujours des provisions pour le fils et pour les deux filles. Parce que tu sais, dans la grande maison, il y a des gens âgés qui vivent et il y a les enfants qui sont partis et qui vivent ailleurs. Et j'ai vu dans les camionnettes, ils chargent des cajots de canards, de poulets, de cailles. Comment ? Tu sais ce que c'est, des cailles ? Non, j'en ai vu juste une fois, c'est plus petit que les pigeons. Et tu en as mangé ? Non, jamais, mais ceux qui en ont mangé m'ont dit que c'était fameux. Donc j'ai vu, ils ont ça, des cajots de cailles. Et des plateaux de fromage, et du miel, et de la mélasse. Ah oui, il y a vraiment tout dans ces camionnettes. Bon, je vais y retourner, je tâcherai d'avoir un peu quelque chose. Donc, en effet, Zahloul arrive à rapporter quelques provisions de la grande maison. Et puis, surtout, Sakina, elle, très intéressée par ce qui se passe justement dans cette grande maison, s'en rapproche pour se mettre en relation avec les servantes qui y travaillent. Parce que, en fait, au départ, elle est très méprisée par les servantes de la grande maison. Les servantes de la grande maison ont évidemment un statut privilégié, puisqu'elles vivent chez les riches. Les servantes de la grande maison, ce sont Zoubeïda et Zora. Et peu à peu, Sakina va s'approcher d'elle, faire connaissance, et elle va réussir à se rendre utile auprès d'elle. Elle va même réussir à entrer dans la maison, en fait, pour travailler, pour que Zoubeïda et Zora puissent prendre du bon temps. Et voilà, ça y est, Sakina, peu à peu, s'installe, en partie, l'après-midi par exemple, dans la grande maison. Dans le milieu de l'après-midi, Zoubeïda est sortie de la cuisine. Elle avait préparé à manger. Le hag, oui, le hag, c'est un titre, hein, donc c'est un autre hag dont il s'agit. Le hag était arrivé. Et Zora est allée dans sa chambre lui porter le plateau du déjeuner préparé. Et après, elle a dit « À nous maintenant !» Alors toutes les trois, Zoubeïda, Zora et Sakina, elles se sont lavées les mains à nouveau et elles ont pris les restes du repas. Et Zoubeïda a dit « Il y en a encore des restes, emporte-les pour tes enfants. » Sakina était vraiment très heureuse. Elle a pensé à tout ce que les enfants allaient pouvoir manger alors qu'ils étaient restés le matin le ventre vide. Mais oui, c'était vraiment la solution, cette grande maison. Travailler dans la grande maison, ça permettait toujours de rapporter des choses. Par exemple là, des galettes et même un bout de fromage. Alors le père de la grande maison reste seul, la femme sans doute est partie et puis éloignée, peut-être qu'elle est malade, enfin en tout cas elle disparaît. Et cet homme reste seul dans la grande maison avec ses servantes. Voilà, c'est toute l'histoire. Le vieux est resté seul, a conclu Zoubeïda. Tu comprends, Zora et moi, on ne peut pas s'occuper de lui, par exemple la nuit. S'il est malade, il aurait besoin de quelqu'un, mais nous, on ne peut pas, nos familles ne voudraient pas. On est en âge de se marier, c'est pas acceptable qu'une fille comme nous passe des nuits dehors. Alors toi, tu pourrais rester, qu'est-ce que tu en dis ? J'ai des enfants et un mari, eux non plus, ils n'accepteront pas. Mais si, demande-leur. Ils pourraient peut-être venir ici avec toi, vous coucheriez tous ici dans la maison et vous repartiriez le matin. Enfin, toi, tu resterais travailler. Et eux, ils rentreraient chez vous. Pourquoi ils n'accepteraient pas ? Bon, je vais leur demander et je te dirai. Sakina est partie. Elle avait du mal à contenir sa joie. En fait, ce jour-là, elle avait rapporté une marmite pleine enveloppée dans un torchon. Zarloul et les enfants, bientôt, allaient pouvoir partager. Et les autres jours, ou plutôt les autres nuits, ils s'endormiraient sur une couche propre. Ils auraient de quoi manger matin et soir. Elle pourrait même leur laisser des choses quand elle préparait le déjeuner. Et bientôt, oui, l'affaire est conclue. La famille passe les nuits dans la maison du hag et Sakina travaille quelques heures dans la journée. Pour les enfants, pour Zarloul, la couche était confortable. À la maison, on n'avait que de la paille avec des sacs dessus. Il y avait de temps en temps dans la paille des esquisses de bois qui piquaient. Mais là, il y a des matelas. Les enfants se sont roulés sur le matelas. Sakina leur a demandé de se laver les pieds avant de se coucher. Elle a aussi désigné de vieilles paires de mules qui étaient restées dans la maison. « Vous les utiliserez, hein ? Pas question de marcher pieds nus ici et de salir les lits. »« Ah, on va au lit tout de suite ? » a demandé le plus jeune. « Non, on va d'abord dîner. Il y a à manger ?»« Oui, il y a à manger. Et des choses que tu aimes. » Elle est allée à la cuisine, elle est revenue avec un plateau, les restes du déjeuner, des morceaux de viande, du poulet, du chou farci, qu'elle avait fini de cuisiner elle-même. Et après le dîner, elle a conduit les enfants à la salle de bain, alors qu'ils portaient les mules, et qu'ils puissent rentrer au lit, tranquilles, avec leurs pieds propres. Et comme ça, a dit le plus jeune, on aura deux maisons, une pour le jour et une pour la nuit. Les enfants ont dormi, et le matin, ils sont rentrés dans leur maison alors que Sakina rejoignait les employés. Zoubeïda lui a demandé de laisser les portes entrouvertes. Et comme ça, on pourrait entendre le hag. Voilà, ça y est, c'était une nouvelle vie, les enfants mangeaient. Et Sakina aimait cette maison, cette grande maison. Une fois où Zarloul était là, elle lui a dit « Tu as vu ce carrelage coloré ?» Il avait jeté un œil distrait sur le sol et regardait de nouveau dehors. Tu as vu, chaque carreau contient une rose. Tu as vu ? Mais Zahloul ne réagissait pas. Il était indifférent au motif, à la beauté qui l'entourait. En fait, tout à coup, on se rend compte que Sakina apprécie vraiment cette belle et grande maison, alors que Zahloul, lui, s'ennuie. Il s'ennuie parce qu'il ne va plus se promener, il ne va plus se promener à l'extérieur, il ne passe plus les nuits dehors, les étudiants lui manquent. Et Zahloul, peu à peu, il va se détacher de cette grande maison. Il aurait pu y obtenir aussi un statut de domestique parce qu'il était apprécié pour tous les services qu'il rendait. Mais lui, non, il n'aime pas. Et puis, dans cette grande maison, il a peur des fantômes. Il a l'impression que le vieux monsieur, le Hag, parle toujours à sa femme qui n'est plus là. Alors, Zahloul, non, il ne veut pas rester. Il ne veut pas rester avec le vieil homme la nuit. Il ne veut pas rester dans la belle maison. Et il finit par ne plus venir. La belle vie est finie, finalement. Et qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste à voir de la vie de cette famille le point de vue de l'enfant. Le point de vue de l'enfant, vous savez, l'aîné des fils, Zahir, on en a déjà parlé. Eh bien, Zahir, il connaît bien des aventures, comme tous les enfants. Et peu à peu, bien sûr, il va nous raconter justement ses aventures. L'introduction de la vie de Zahir, elle est toujours faite par Sakina. C'est Sakina qui reste assise sur la mastaba le matin et qui réfléchit à sa vie. Et puisque maintenant, elle ne va presque plus dans la grande maison, enfin, elle va y chercher des choses de temps en temps, mais Zahloul n'y va plus, il reste les aventures du fils. Les aventures du fils avec en particulier, bien sûr, la recherche du pain. Youssef va nous raconter les découvertes de Zahir.
Le four de Abbas, qu'on l'a-t-il découvert ? Elle passait devant sans le voir. C'était l'odeur du pain. Elle était encore tôt et il avait senti cette odeur, forte, pénétrante. Il s'était retourné. Les galettes sortaient tout juste du four et on les déposait, en attendant de les vendre, sur des tables de bois à l'entrée. Des galettes toutes gonflées à la surface légèrement brunie, avec de petits orifices brûlés. Des bulles étaient apparues quand la pâte avait commencé à lever et les flammes les avaient léchées. Et l'on avait vu plus d'une fois quand elle allait au four en compagnie de sa mère, les jours où elle s'y rendait pour y faire cuire son propre pain. Le dessus des galettes semblait craquant. Elle devait fondre dans la bouche. Elle se tenait à l'entrée, essayant de distinguer quelque chose dans la pénombre. Elle a remarqué une table d'angle couverte de brisures de pain entassées qu'on avait récupérées après la cuisson. Elle les a vues en s'approchant. Elle a eu envie de les prendre. On ne pourrait pas lui refuser ces morceaux biscornu ou brûlé sur les bords. Il y en avait beaucoup qui avaient dû tomber au sortir du four ou lorsqu'on avait transporté les galettes sur les tables. Elle a tendu la main, s'est emparée d'un crouton. Une voix a surgi de l'obscurité. « Prends, si tu veux. » On avait éteint le four d'Abdou. Abdou et la Elle apprendra son nom par la suite, écarté avec un long balai les morceaux de bois brûlés, répondit devant.
Oui, Abdou, en fait, c'est le commis du boulanger. Hein. Il y a le four qui appartient à un propriétaire, et puis il y a le commis qui s'occupe de la cuisson et qui est Abdou, et qui justement va donner peu à peu des morceaux à Zahir. C'est Zahir, oui.
Viens là et balaye. Tu pourras remplir ton froc, Zahir. Et entré, il a découvert avec surprise celui qu'il n'avait pu jusque-là distinguer, un petit bonhomme au dos voûté. Le feu avait léché ses bras, son cou et les lobes de ses oreilles. À ces endroits, la peau était pelée. Il se tenait devant la gueule du four en caleçon et gilet. Il a passé le balai à Zahir, puis s'est assis sur le seuil pour fumer une cigarette. Zahir n'a pas traîné. Sa tâche, une fois accomplie, il s'est posté près de la table couverte de débris, a attendu. Abdou lui a jeté un coup d'œil. « Allez, prends-en autant que tu peux. » Et s'est levé pour l'aider. Zahir a tendu le devant de sa galabia et l'homme l'a rempli de morceaux qu'il saisissait à deux mains. « Ça suffit, » a dit Zahir. « C'est plein à craquer. » Il ne pouvait fermer son ballot et s'est hâté de sortir. C'est la première fois qu'il rapporte du pain à la maison. Il y a une journée et demie qu'ils n'ont rien mangé. Que va dire sa mère en voyant sa galabia pleine? Ils sont assis à leur place habituée sur la mastaba. Il s'arrête devant eux et, hors d'haleine, ouvre son chargement. Sa mère pousse un cri, se lève d'un bond, puis le tire par l'épaule à l'intérieur de la maison, suivi du père et du fils cadet. Tout ça? Tout ça? Mais d'où est-ce que ça sort? Du four de Abbas. Du four de Abbas? Elle t'a donné tout ça? En quel honneur? Il y avait Abdou, le commis. Il m'a dit, balaye et remplis ton froc. Et tu as balayé? Oui, avec le grand balai. Elle reprend une bouchée de pain. Il la regarde, attend qu'elle dise quelque chose. Par le prophète et les fameux, Zarlou ne dit mot, mais son visage trahit sa satisfaction. Sakina apporte les deux oignons qu'elle cachait en attendant le jour où il y aurait des choses à cuisiner. Zarlou les écrase entre ses mains. Il s'asseye autour du cajou. Ce jour-là, ils mangèrent à leur faim. Il restait même un peu de pain. Zahir n'était pas peu fier quand ses croutons furent hissés dans le garde-manger. Mais il n'en montra rien.
Oui, donc Zahir a trouvé cette solution avec le commis Abdoul du four de Abbas. Il va pouvoir récupérer comme ça du pain un peu brûlé, un peu cassé, pas vendable en tout cas. Et c'est le commis Abdou qui lui donne jour après jour, enfin peut-être pas jour après jour, mais au moins deux fois par semaine, des restes de pain. Et puis Abdou, il connaît des tas d'histoires et pendant que Zahir va travailler un petit peu pour lui, il lui raconte justement des histoires, un peu ces contes orientaux dont on parlait tout à l'heure. Et hormis Abdou, Zahir a des copains de son âge qui souvent... Lui donne aussi à manger, lui donne un petit peu de nourriture parce qu'ils savent qu'il a faim et que dans sa famille, on a faim. Il lui donne de la nourriture sous prétexte de jeu. Il lui donne de la nourriture, par exemple, après la pêche, etc. Et il y a un très bon copain, Abdallah, qui est fils d'instituteur, qui est quasiment riche et qui arrive à lui donner des tas de choses qui restent dans la maison. La solidarité fonctionne chez les enfants, oui. Mais la société des adultes, elle reste impitoyable. Alors on va se quitter sur cette société impitoyable, cette société divisée entre ceux qui mangent et ceux qui ont faim. Cette société aussi où quand même on rêve de temps en temps et où on raconte beaucoup d'histoires. Donc je vous renvoie vers d'autres contes orientaux que vous pourrez apprécier de votre côté. Et en ce qui me concerne, je vais vous abandonner pendant quelques temps parce que je m'en vais 2-3 semaines et donc vous aurez des rediffusions les semaines qui viennent, à moins que Françoise trouve des gens à interroger. À bientôt !